Commentaire sur le Cantique des Cantiques et 13 poèmes. Le commentaire est fait par Sainte Thérèse d'Avila. Préface. Les Carmélites de Caen, qui nous ont donné la meilleure histoire de Sainte Thérèse, racontent que vers sa 51e année, la sainte commença d'écrire un commentaire du Cantique des Cantiques. Elle y travaillait à long intervalle, quand au bout de 10 ou 12 ans, et sans qu'on puisse dire si l'ouvrage était achevé, un père dominicain s'étonna qu'elle eût osé aborder un sujet si délicat. « Jetez cela au feu. Il n'appartient pas à une femme d'expliquer l'Écriture sainte. » À peine avait-il tourné les talons que Thérèse, joyeuse de faire un sacrifice par obéissance, brûla son manuscrit. Il paraît que ce lourdeau n'avait voulu qu'éprouver la sainte et qu'il fut consterné des effets de sa grossièreté. Il s'appelait Yangas, homme savant mais sot. Par bonheur, quelques religieuses avaient copié les premières pages de ce petit traité. Celle-ci même que le comte de Premio Real vient de traduire exactement. Ce commentaire ne s'adressait qu'aux carmélites. Sainte Thérèse le composa pour l'enseignement de ses religieuses. Tous ses ouvrages ont ce caractère utilitaire. C'est par exception qu'un jour, elle a autorisé une édition de ses avisos et de son Castillo intérieur. En principe, elle ne voulait rien publier. Elle dédaignait les faits littéraires. Celle est à l'esprit de tous les religieux de son temps. Tirso de Molina se reconnaît le droit de donner des ouvrages au théâtre pour rendre service à Dieu et à l'Église. Mais quant à les mettre en librairie, ah non ! Fille de ses vanités ! Aussi, de son vivant, n'avons-nous pas une édition de ce grand dramaturge, mais seulement les petits cahiers manuscrits qu'il confiait au directeur de troupe de comédie. De la même manière, Thérèse a dû remettre ses ouvrages à ses filles sans aucune arrière-pensée de publication. Et heureusement qu'après elle, des hommes d'église les ont jugés propres à l'édification. Elle ne soupçonnait pas que nous la lirions. C'est ce qui apparaît clairement des formules toutes familières qu'elle emploie. Nous assistons vraiment à sa causerie la plus libre avec ses religieuses. À un instant, elle s'arrête et elle dit « Avant d'aller plus loin, j'ai quelque chose à faire, observé de très frappant à mon sens. Ce serait peut-être mieux ailleurs, mais je crains de l'oublier. » Ou bien elle s'interrompt encore et s'excuse. Bien que cela que je vais vous dire ait été très souvent écrit mieux que je ne saurais le faire, je vais vous le répéter. Et en effet, peut-être, n'auriez-vous pas de quoi acheter des livres, car vous êtes pauvre, et peut-être ne connaîtriez-vous personne qui vous enfile l'aumône. Ces lignes restent à votre disposition dans la maison. Et vous y trouverez tout ensemble. Ainsi, nous la surprenons dans la familiarité de sa vie sublime et quotidienne. Ce petit livre nous la montre en train de commenter à ses religieuses le mystère du Cantique des Cantiques et de leur faire connaître les précieux secrets de perfectionnement que renferment ces textes obscurs et magnifiques. Que le Seigneur me donne un baiser de sa bouche, car ton lait est plus doux que le vin et il exhale de délicieux parfums. Je me suis assis à l'ombre de celui que je désirais et son fruit est doux à mes lèvres. Le Seigneur m'a entraîné dans le cellier des vins et il a fait naître en moi la charité. Soutenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi avec des pommes, car je défaille d'amour. Il semble qu'il y ait dans ce vieux cantique De quoi faire rêver éternellement la jeunesse. Les religieuses pressées autour de la sainte lui avouent leurs scrupules, voire leurs scandales. Vraiment, de pauvres vers de terre comme nous sommes oseraient dire à leur créateur qu'il me donne un baiser de sa bouche. Et, mes sœurs, réplique la sainte, pourquoi nous effrayer? Le Saint-Sacrement n'est-il pas plus surprenant? Ne communions-nous pas? Bonne réponse, bien directe. Tout de suite, on voit un grand esprit audacieux et clair, un esprit héroïque, si l'on admet que l'homme supérieur, le héros, c'est celui qui entreprend et risque le plus par ses actes ou par ses pensées. L'héroïque Thérèse n'est pas une intellectuelle. Elle dit ingénument de belles choses transparentes, où l'on voit les mouvements et comme la respiration de son âme. Elle aime avec passion la simplicité. Qu'est-ce que son génie littéraire? La splendeur de sa foi, un cri d'amour, des images saisissantes et continuellement un don prodigieux d'analyse. Mais sans les ressources de l'homme de lettres qui ajoute à son inspiration du savoir-faire et du métier, Thérèse n'a aucune visée littéraire. Avec un goût parfait qui lui vient de son humilité, elle se propose d'écrire comme elle parle, et elle parle comme une femme de bonne race à des filles pleines d'esprit. On est dans les nues, à la hauteur du plus audacieux vol des aigles, mais fort à l'aise avec la respiration la plus aisée. Elle a beaucoup de grâce, une sorte d'humour continuel. Ainsi, quand elle dit « Oh, mes filles, je sais bien que nous ne pouvons pas vivre sans péché, mais du moins, ne commettez pas toujours les mêmes, afin d'éviter qu'ils ne s'enracinent davantage. » Plus loin, elle invite les religieuses à ne pas se relâcher dans les petites choses, à ne manquer en rien à la règle, et là-dessus, elle leur fait cette jolie réflexion humaine. Il est inévitable, je le sais, qu'ils se commettent des fautes ici-bas. Nous sommes femmes après tout. Mais je dis que vous devez les sentir quand vous les avez commises et savoir que vous êtes dans votre tort. Voilà des accents paisibles. Et ceci encore. Je ne dis pas qu'il faille souhaiter être exempt de tentations et de troubles. Il y a souvent dans ces alternatives une grande grâce du Seigneur. L'âme s'améliore par ce moyen. Nous ne pouvons pas prétendre être des anges ici-bas, puisque ce n'est point là notre nature. Ce sont des femmes et qui sourient, j'en suis sûre, quand Thérèse, pour leur faire comprendre qu'en toute chose, il ne faut chercher que l'honneur seul et la gloire de Dieu, leur trace ce portrait d'un prédicateur. Il prêche avec l'intention de se rendre utile aux âmes. Il n'a pas cependant tout à fait renoncé aux avantages humains. Il ne dépouille pas vis-à-vis de son auditoire certains désirs de plaire qui pourra lui valoir hommage et crédit. Disons mieux encore, il brigue un office de chanoine. Et cet autre trait encore à propos de la Samaritaine. On dit que l'âme enivrée, elle s'en allait criant par les rues. Ce qui me stupéfait, c'est de voir qu'on l'écouta, car c'était une femme, et sans doute assez pauvre, puisqu'elle allait au puits chercher de l'eau. Je me rappelle toujours avec une joie parfaite ce morceau excellent d'une de ses lettres. Dites, s'il vous plaît, à la sœur Saint Jérôme, qui signe sa lettre, Muladar, entre parenthèses fumier, que je demande à Dieu de tout mon cœur que son humilité ne soit pas seulement dans ses paroles. C'est un plaisir infini de voir ainsi toute vive une personne légendaire et de l'entendre qui s'explique dans le privé sur ce qui lui tient le plus à cœur. Mais est-il convenable, quand il s'agit d'une sainte et d'un ouvrage de dévotion, que je me place simplement au point de vue de mon plaisir. J'ai fait part de mon scrupule au comte de Trémio Réal quand il m'a demandé cette préface. Il n'en veut pas tenir compte. Il dit qu'il en est des œuvres de Sainte Thérèse comme des pensées de Pascal, que pour ma part j'appelle Saint Blaise Pascal. Elles définissent l'être humain dans ses parties sublimes, et le plus profane des hommes, à s'approcher de ces grandes individualités, trouve son avantage spirituel et son ennoblissement. Eh bien, à nous, gens du siècle et du XXe siècle, que peut offrir cet Espagnol du ciel? Que pouvons-nous boire de l'eau qu'elle va prendre au puits des Saintes Écritures?